Charles de Valois, aussitôt, entonna le grand couplet qu'il récitait à tout venant depuis 8 jours. Il allait, pour peu qu'on lui en procurât les moyens, supprimer toutes les noveltés introduites par Marigny et ses légistes bourgeois. Il allait rendre l'autorité au grand baron, il allait rétablir la prospérité dans le royaume, en revenant au vieux droit féodal qui avait fait la grandeur du pays de France. Il allait restaurer l'ordre. Comme tous les brouillons politiques, il n'avait que ce mot à la bouche, et ne lui donnait d'autre contenu que les lois, les souvenirs ou les illusions du passé. Avant longtemps, je vous assure qu'on saura retourner aux bonnes coutumes de mon aïeul Saint-Louis. Ce disant, il montrait, posé sur une sorte d'autel, un reliquaire en forme de pied et qui contenait un os du talon de son grand-père. Ce pied était d'argent, avec des ongles d'or. Car les restes du Saint-Roi avaient été partagés, chaque membre de la famille, chaque chapelle royale voulant en garder une parcelle. La partie supérieure du crâne était conservée dans un beau buste d'orfèvrerie à la Sainte-Chapelle. La comtesse Mao d'Artois, dans son château de Hesdin, possédait quelques cheveux ainsi qu'un fragment de mâchoire. Et tant de phalanges, d'esquilles, de débris avaient été ainsi répartis qu'on pouvait se demander ce que contenait la tombe de Saint-Denis. Si même la véritable dépouille y avait jamais été déposée. Car une légende tenace courait en Afrique, selon laquelle le corps du roi franc avait été enseveli près de Tunis, tandis que son armée ne rapportait en France qu'un cercueil vide, ou chargé d'un cadavre de remplacement. Ptolomei alla baiser dévotement le pied d'argent, puis demanda
« Pourquoi vous faut-il au juste ces 10 000 livres, monseigneur ?»
Force fut à Valois de révéler en partie ses projets immédiats. Le Siennois écoutait en hochant la tête et disait, comme s'il prenait mentalement des notes,
« Messire de Beauville, à Naples, oui, oui. Nous commercerons avec Naples par nos cousins les Bardi. Marier le roi. Oui, oui, je vous entends, monseigneur. Rassembler le conclave. Ah, monseigneur, un conclave coûte plus cher à bâtir qu'un palais, et les fondations en sont moins solides. Oui, monseigneur, oui, je vous écoute. »
Quand enfin il eut appris ce qu'il souhaitait savoir, le capitaine général des Lombards déclara
« Tout cela est certes bien pensé, monseigneur, et je vous souhaite le succès du fond du cœur, mais rien ne m'assure que vous marierez le roi, ni que vous aurez un pape, ni même si cela était que je reverrais mon or, à supposer que je sois en mesure de vous le fournir. »
Valois jeta un regard irrité vers d'Artois. « Quel étrange bonhomme m'avez-vous amené là, semblait-il dire, et n'aurais-je tant parlé que pour n'en rien obtenir ?»«
Allons, banquier !» s'écria d'Artois en se levant. « Quel intérêt demandes-tu? Quel gage? Quelle franchise ou autre avantage ?»«
Mais aucun, monseigneur, aucun gage, » protesta Ptolomei.
« Pas de vous, vous le savez bien, ni de monseigneur de Valois, dont la protection m'est trop chère.
Je cherche simplement... Je cherche comment je pourrais vous aider. »
Puis, se tournant à nouveau vers le pied d'argent, il ajouta doucement
« Monseigneur de Valois vient de dire qu'on allait rendre au royaume les bonnes coutumes de Monseigneur Saint-Louis. Mais qu'entend-il par là? Va-t-on remettre en usage toutes les coutumes ?»«
Certes, » répondit Valois sans bien comprendre où l'autre voulait en venir.
« Va-t-on rétablir, par exemple, le droit pour les barons de battre monnaie sur leurs terres ? Si telle ordonnance était reprise, alors, Monseigneur, je serais mieux apte à vous appuyer. »
Valois et d'Artois se regardèrent. Le banquier pointait droit sur la plus importante des mesures que Valois projetait, et celle qu'il tenait la plus secrète, parce qu'elle était la plus préjudiciable au trésor et pouvait être la plus contestée. En effet, l'unification de la monnaie dans le royaume, ainsi que le monopole royal de l'émettre, étaient des institutions de Philippe le Bel. Auparavant, les grands seigneurs fabriquaient ou faisaient fabriquer, concurremment avec la monnaie royale, leurs propres pièces d'or et d'argent, qui avaient cours en leur fief. Et ils tiraient de ce privilège une grosse source de profit. En tiraient profit également ceux qui, comme les banquiers lombards, fournissaient le métal brut et jouaient sur la variation de taux d'une région à l'autre. Et Valois comptait bien sur cette bonne coutume pour relever sa fortune.
« Voulez-vous dire encore, monseigneur, » poursuivit Ptolomei, continuant à considérer le reliquaire comme s'il en faisait l'estimation, « voulez-vous dire que vous allez restaurer le droit de guerre privé ?»
C'était là une autre des prérogatives féodales abolies par le roi de fer, afin d'empêcher les grands vassaux de lever bannière à leur guise et d'ensanglanter le royaume pour régler leurs différends personnels étaler leur gloriole ou secouer leur ennui.
Ah ! Que ce saint usage nous soit vite rendu, s'écria Robert, et je ne tarderai pas à reprendre le comté d'Artois sur ma tante Mao.
Si vous avez besoin d'équiper des troupes, monseigneur, dit Ptolemée, je puis vous obtenir les meilleurs prix des armuriers toscans.